Eh bien, voilà, c'était brutal, mais c'est comme l'atterrissage d'un Soyouz. D'un coup, bang, ça a coupé. Alors, François Gagnon, qui va passer l'été, évidemment, avec nous. Je dis avec nous, mais avec vous aussi, parce que Marie-Claude Lavallée va prendre la relève début juillet. D'abord, parler de la nouvelle du jour. Et ça, François, je me rappelle d'en avoir parlé avec toi aussi, mais avec Pierre-Yves McSween. Il y a quelques semaines, Bombardier a décidé de vendre son programme CRJ à Mitsubishi, le japonais, et ça met fin, si on veut, à la construction d'aéronefs commerciaux. Parce que Bombardier va continuer de fabriquer des jets d'affaires excellents, d'ailleurs, ces fameux Global.
Oui, tout à fait, dont le 7500, là, qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau international.
Un joyau.
Oui, succès tout à fait. Là. Même si on parlait du Global 800, là, qui est un CRJ 900 modifié, là, en réalité. Ça veut donc dire que la rumeur qui circulait depuis déjà quelques temps au Salon de Bourget s'est concrétisée aujourd'hui. C'est une vente avec les actifs et également la dette qui est associée avec le programme CRJ. Ça va donner environ 1 milliard de dollars canadiens à Bombardier. Là, on met la main sur la maintenance. Maintenance, soutien, remise à niveau, marketing, vente partout à travers le monde, particulièrement chez nos voisins américains où on était très, très friands des avions CRJ, particulièrement le 900, la série 900. Et la construction des appareils va se poursuivre à Mirabel parce que Bombardier va conserver quand même l'usine à Mirabel. Fort probablement que ça va changer de vocation dans la deuxième semestre de 2020. Donc, il reste environ un an de construction parce qu'il y a 51 appareils qui reste à construire et à livrer, tous des CRJ 900 d'ailleurs. Pour les 1600 employés qui sont affectés au programme CRJ, le sort de la majorité d'entre eux est déjà déterminé. Il y en a 900 qui sont dans le réseau de vente dans le réseau de services après vente de l'appareil, surtout aux États-Unis, qui sont transférés directement à Mitsubishi. Il reste 400 personnes, 250 qui sont à l'assemblage, 150 au soutien lié à la production à l'usine de Mirabel, qui vont demeurer donc pour le programme CRJ jusqu'en 2020, mais par la suite, on espère, avec l'augmentation de cadence de l'Airbus A220, l'ancien C-Series qui a été donné donc à Airbus, qui s'accélère, on espère être capable de placer ces gens-là. C'est peut-être pour ça que Bombardier veut garder l'usine d'ailleurs à Mirabel, ne l'a pas vendu à CRJ, donc à Mitsubishi. Parce que Mitsubishi s'apprêtait à lancer lui aussi son fameux MRJ 70, 90 et 100, qui sont pas mal pareil comme les CRJ et c'est peut-être mieux pour eux d'avoir un appareil qui est déjà qui inspire déjà une confiance à travers le monde, particulièrement chez nos voisins américains, et Mitsubishi avait besoin de cet avion-là pour être capable d'aller de l'avant avec son fameux programme. Il n'en demeure pas moins que ça s'est fait vite. En l'espace d'un an, là, vous avez eu le C-Series qui est passé donc pour quasiment gratos, sinon pour une pièce à Airbus. Vous avez la série Q400 qui a été vendue à Longview. Longview qui avait déjà fait des affaires avec Bombardier à l'époque où on avait acquis, lorsqu'on avait décidé de larguer le programme des CL-415 et 215. Donc, il y avait comme une espèce d'affinité entre Longview et également Bombardier. Et maintenant, Mitsubishi qui met la main sur les CRJ. C'est terminé. Il reste juste les Global qui vont être vendus par Bombardier. Alors, le site Internet commence déjà à changer pas mal.
Alors, une mauvaise nouvelle, mais officiellement, ce n'est pas politique, c'est sanitaire. La Chine qui va fermer complètement la porte aux exportations canadiennes des produits de viande dès demain. Et ça va faire mal à des producteurs québécois.
Oui, tout à fait, parce que là, il y avait le porc là, qui était dans la mire, parce qu'on avait découvert dans une entreprise québécoise qui faisait du surgelé, entre autres des langues de porc surgelé, une espèce de molécule là, pour permettre justement au porc d'avoir de la viande qui était très maigre. Alors, on avait suspendu temporairement les importations de porc de cette entreprise canadienne-là, mais là, on a dit, après avoir fait enquête, qu'il y a beaucoup de falsifications qui auraient été reconnues, d'ailleurs, selon le Journal Montréal, par le Canada, des certificats sanitaires vétérinaires falsifiés qui ont été identifiés dans les produits de viande qui sont exportés vers la Chine, ça serait dû à un défaut de surveillance. Et on dit au Canada, ben là, faites votre job. Et une fois que ce sera fait et qu'on aura découvert qu'est-ce qui se passe exactement avec les résultats vétérinaires, on pourra rouvrir par la suite. Il n'en demeure pas moins que, tu sais, Paul, le gros des exportations vers la Chine, c'est le porc. Là. L'année passée, au cours des dernières années, on disait à peu près 56 500 tonnes de porc. Mmh. Ça risque d'affecter également le poulet. Le poulet, c'est à peu près 13 000 tonnes. Et le bœuf, ça, c'est plus l'ouest canadien. Par contre, environ 6 700 tonnes. Mais on voit que le gros de la production là, qui risque d'affecter le Québec, c'est les producteurs de porc et les producteurs de poulet. Alors donc, on verra là, comment va se débrouiller à la veille du G20 qui va s'ouvrir. Là. Déjà que Trudeau avait demandé la semaine passée de l'aider là, dans les échanges commerciaux parce que M. Trudeau il n'est pas capable de parler au président. Je ne sais pas si au G20, il sera capable de le faire, là, de lui parler directement.
Alors que Donald
il a demandé
Trump,
de l'aide à Donald Trump.
Oui, et Trump et Xi Jinping doivent s'adresser la parole quand même.
Tout à fait. Mais là, on voit qu'il y a des rapprochements de plus en plus serrés entre la Chine et le Japon. Et là, il commence à y avoir un petit peu de tergiversation. Je ne sais pas si ça risque de faire mal au commerce entre la Chine et les États-Unis. Mais en tout cas, on verra au G20 si ça risque de débloquer. Mais il y a déjà des négociations entre les Américains et la Chine qui ont débuté lundi. Il semble-t-il que ça roule bien. Je ne sais pas si ça risque d'avoir un effet au G20, mais en tout cas, on verra.
Ça, c'est fort intéressant. On revient à l'aviation et
oui.
L'acheteur potentiel d'Air Transat. Hier soir, une lettre a été publiée par le Montréalais Dominique Pigeon sur le site web de sa firme FNC Capital.
Oui.
Et il considérait peut-être une fourchette de prix comprise entre 17 et 20 $ par action, et il dit peut-être plus éventuellement, ce qui est nettement supérieur à l'offre de MAC et à l'offre d'Air Canada.
Oui, Air Canada, c'est 13 $, MAC, 14 $, mais aujourd'hui, ils ont fait une concession. L'une des concessions qu'on a faites et principale, c'est de ne pas avoir nécessairement l'aide du gouvernement du Québec pour être capable de faire l'offre. Toutefois, il y aurait eu une entente pour le financement du gouvernement du Québec via la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ. Donc, on maintient cette offre de 14 $-là, mais on enlève la condition sine qua non de dire si le gouvernement nous aide à la hauteur de 120 millions. Bon, là, par contre, la pavée dans la mare, c'est comme tu l'as dit, c'est FNC Capital qui se montre intéressé par Transat également. C'est une firme d'investissement, donc, qui travaille surtout pour faire des offres amicales. On parle de rachat d'entreprises ou de remise sur pied d'entreprises entre 5 et 200 millions de dollars. Mais là, ça risque d'être pas mal plus, là. Si t'offres 20 $, c'est 8 millions par $ offert de plus.
C'est pas la même chose, là.
Non, du tout. Là, on se retrouverait à 20 $ autour de 610 millions de $.
Mais
est-ce que Air Canada, si jamais la firme est vraiment sérieuse dans son offre, qu'elle dit sérieuse d'ailleurs, qu'elle va travailler, elle refuse de dire comment se ferait le montage financier, mais elle dit que déjà il y a des ententes là qui seraient prises avec certains financiers pour être capable de pouvoir faire cette offre-là assez rapidement.
Bon.
Mais là, on verra d'ici la fin de la semaine parce que les discussions officielles, sérieuses entre Air Canada et Transat et Unique se terminent donc ce week-end prochain et on verra comment par la suite des choses. La semaine prochaine, si FNC Capital pourrait faire cette offre-là, comment va réagir donc Transat à l'offre de MAC et ou comment va se dérouler les négociations avec Air Canada? Parce que ça ne veut pas dire que, parce que les discussions exclusives se terminent le 29 juin, ça ne veut pas dire que Air Canada ne dira pas, ben là, regarde, on ne se laissera pas manger à l'aine sur le dos par d'autres et on va offrir peut-être 14, 15, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui peut arriver avec ça?
On va rester dans l'aviation pour conclure en quelques secondes. Le ministre des Transports, Marc Garneau, qui a dit oui à Onex, qui, elle, veut mettre la main sur WestJet.
Oui, pour 31 $ l'action, mais on a appris il y a quelque temps que Onex aurait été prêt à payer 35,75 $, mais il a fait une offre de 31 $ qui a été acceptée par la compagnie WestJet. Pourquoi? Parce que c'est la crise des 737 MAX qui a fait baisser la valeur de l'offre de la part d'Onex. Offre qui a été acceptée donc par le ministre des Transports. Mais là, il reste des choses. Le bureau de la concurrence, mais aussi la réunion extraordinaire des actionnaires de WestJet qui se déroulera le 23 juillet prochain. Mais d'après moi, ça va passer, ça, cette histoire-là.
Merci François, à demain.
C'est un plaisir, à demain, au revoir.